La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 $ par semaine.
Toyota pourrait produire des voitures électriques destinées à la Chine. La petite Twizy pourrait enfin rouler au Québec. Une nouvelle BRCC est en fonction à la baie. Des BRCC seront installées le long de la transcanadienne entre l'Ontario et le Manitoba. Suite à son lancement, on connaît maintenant tous les détails sur la nouvelle Tesla 3, son prix et ce qui vient avec ça. Différents types de motorisation, comment s'y retrouver, on en parle avec la chronique Véhicules électriques 101. On parle du E-Prix de Montréal. Est-ce que vous avez aimé? En tout cas, nos invités, eux, oui. Maxime Séguin-Durand et sa chronique, les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité, tout ça et bien plus encore dans ce 15e épisode de la balado-diffusion « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux véhicules électriques. Alors, au moment d'enregistrer le présent podcast, on est tout de suite après le E-Prix de Montréal, donc la grande course de Formule E, de Formule électrique. Et puis, évidemment, je vous cache pas que j'étais sur place. Non pas que je sois un grand amateur de course automobile, ni de voiture en général, hein, ça fait un peu étrange dire ça, venant d'un administrateur d'une association de véhicules électriques. En fait, c'est beaucoup plus le véhicule électrique qui m'intéresse que la bagnole dans le sens qu'on l'entend généralement. Puis j'ai jamais été non plus un grand fan de course et puis d'événements du genre. J'ai très peu suivi la Formule 1, un peu comme tout le monde, j'imagine, de ma génération. J'ai connu plus jeune la fin tragique de Gilles Villeneuve, je m'en rappelle à peine, mais je m'en rappelle. Et puis j'ai connu aussi la période de Jacques Villeneuve. Je dois vous dire que la Formule E, je m'y intéressais pas, mais je le regardais du coin de l'œil. Et j'ai toujours vu la Formule E comme étant un laboratoire de recherche et développement extraordinaire, où je vois là le même potentiel pour le véhicule électrique qu'on a vu pour la Formule 1 envers les véhicules ordinaires, donc à moteur à combustion. Et je suis toujours persuadé que l'avancement, les recherches et développements en batterie, en système de recharge, en système électronique de gestion de l'énergie, ben ça passe par de la recherche et développement à gros budget. Et puis la Formule E est une façon extraordinaire, est un moyen extraordinaire d'aller chercher des sommes de recherche et développement et de faire avancer de cette façon-là la recherche et puis les nouveautés. Puis on va tous pouvoir un jour en bénéficier. Donc en ce sens, pour moi, c'est intéressant d'aller faire un tour. J'ai été agréablement surpris. J'ai adoré mon passage sur le site du E-Prix. Non, Montréal n'était pas à feu et à sang. On était capable de s'y rendre facilement en transport en commun. Aucun délai, aucune attente. Ça circulait super bien sur le site. Évidemment, il y a des points d'accès qui sont bien identifiés. Et en dehors de ça, ben, c'est clôturé. Que voulez-vous? On peut pas rentrer n'importe où. Mais sinon, là, une fois sur le site, c'est une ambiance extraordinaire. On a vécu des moments vraiment... je vous dirais surprenant pour des gens qui sont pas des tripeux de course normalement. Et puis ce qu'on a fait en sortant de là, on s'est promis qu'on y retournerait. Et au moment de vous parler, ben mes billets pour l'année prochaine sont déjà achetés. Alors je vous le dis, ça vaut la peine d'aller jeter un tour puis d'aller voir là, des bolides tout à fait extraordinaires roulés électriques dans un circuit urbain en plus dans les rues de Montréal. C'est tout à fait exceptionnel. J'aimerais également en profiter pour saluer un auditeur qui m'a gentiment envoyé un courriel, M. Gadi Melhamed. Je voulais simplement vous dire merci d'être à l'écoute de la balado-diffusion Silence on roule. Comme M. Melhamed, si vous écoutez le podcast et vous aimeriez me dire un petit bonjour ou encore me faire part de vos commentaires, vos suggestions, Ne vous gênez surtout pas, le podcast, c'est pour vous qu'on fait ça. Alors, vous nous écrivez à martin@aveq.ca, donc martin@avec.ca. Et puis, vous me dites ce que vous avez envie de me dire. Et puis, on va tenir compte de tous les commentaires, évidemment, les critiques constructives. J'aimerais aussi vous suggérer, si vous écoutez le podcast par abonnement, là, ce que je vous suggère pour recevoir automatiquement sur vos appareils les épisodes. Sur iTunes, vous pouvez voter, vous pouvez donner une cote au balado diffusion. Donc, un petit 5 étoiles pour notre balado, ça a pour effet de remonter sa cote et ça la fait remonter dans le palmarès. Donc, la balado est publicisée plus souvent et vue, donc entendue par un plus grand nombre de personnes. Donc, si vous avez le temps d'aller faire un petit tour pour nous donner un coup de main, ça serait bien apprécié. Alors, je ne veux pas trop m'étirer, on a beaucoup encore de sujets aujourd'hui. On fait une courte pause et on y va tout de suite avec les nouveautés de la semaine dans le monde de l'électromobilité. Première nouvelle qui attire notre attention cette semaine, c'est Toyota qui pourrait enfin commencer à produire des voitures électriques de masse grâce à la Chine. En effet, Toyota a été l'un des grands constructeurs qui s'est longtemps opposé ou qui était réticent à produire des véhicules tout électriques. Mais récemment, le magazine japonais Nikkei a sorti un nouveau rapport indiquant que Toyota envisageait la production en série de véhicules électriques pour se conformer au mandat de la Chine et qu'il se concentre sur des nouveaux VUS. Donc, c'est à suivre. Il aura fallu être patient, mais finalement, après 4 ans de délai, la fameuse petite Twizy de Renault pourrait rouler au Québec. Le gouvernement du Québec vient enfin d'adopter, après avoir tergiversé pendant près de 4 ans, un règlement sur les véhicules basse vitesse qui définit les normes de sécurité visant à protéger les occupants et les autres usagers sur la route. En fait, en clair, ce qui arrive, c'est que le gouvernement du Québec avait aucune loi, donc avec les lois sur l'assurance automobile du Québec, il n'y avait aucune loi et aucune réglementation pour permettre aux véhicules basse vitesse de rouler. Donc, peuvent-ils rouler? Selon quelles règles? Quelles mesures de sécurité doivent-ils avoir? À quelle vitesse doivent-ils rouler? Etc. Donc, ce règlement introduit des règles additionnelles à celles de Transport canadien en matière d'équipement et de performance. Et la Société de l'assurance automobile du Québec jugera de la conformité des véhicules sur la base des dossiers qui devront lui être présentés par les fabricants à cet effet. Donc, en mai 2016, une modification au Code de sécurité routière permettait la circulation des véhicules à basse vitesse et attribuait au gouvernement le pouvoir de déterminer par règlement les normes de sécurité particulières qui leur étaient applicables. Donc, un véhicule basse vitesse doit être entièrement électrique, doit avoir une vitesse maximale entre 32 et 40 km/h, il doit être immatriculé et il pourra accéder au chemin public où la vitesse permise est d'au plus 50 km/h. Jusqu'à maintenant, les véhicules basse vitesse ne pouvaient circuler que sur des chemins privés ou des zones balisées. Le circuit électrique était fier d'annoncer qu'une nouvelle borne de recharge rapide était maintenant en fonction à l'Abbé, donc plus particulièrement au 665 boulevard de la Comportée à l'Abbé. On pourra s'y charger avec des recharges rapides 400 volts au moyen des connecteurs CHAdeMO ou Combo. On vous rappelle que la charge rapide est offerte à 10 $ de l'heure facturée la minute. Donc, une recharge de 20 minutes coûterait environ 3,33 $, une recharge de 30 minutes, 5 $. Nous profitons de l'occasion aussi pour apporter une précision. Un seul véhicule à la fois, ça c'est important, peut se charger sur la borne rapide malgré qu'il y ait deux câbles, là, un combo, l'autre CHAdeMO. Donc, c'est l'un ou l'autre qui fonctionne à la fois, pas les deux en même temps. On apprenait dernièrement que 34 nouvelles stations de recharge rapide pour véhicules électriques avec stockage d'énergie seront déployées le long de l'autoroute transcanadienne. C'est une bonne nouvelle pour les conducteurs actuels ou futurs de voitures électriques au Canada, car le réseau de stations de recharge rapide couvrira l'autoroute canadienne dans une région qui est actuellement mal desservie, soit entre l'Ontario et le Manitoba. Il est à noter que les stations seront équipées de systèmes de stockage d'énergie afin de s'assurer qu'elles pourront fournir une charge rapide, même s'il existe des limites de réseau. Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada, a commenté l'annonce en disant que le Canada reconnaît le rôle clé que joueront les véhicules électriques dans la réduction des émissions du secteur des transports. Avec plus de véhicules électriques disponibles, nous voulons faire un choix facile pour les Canadiens. Cet investissement stratégique nous rapproche d'un réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques, d'un bout à l'autre du pays, tout en développant notre économie et en créant de bons emplois pour la classe moyenne du Canada. Alors, petit pas, direz-vous, de la part du Canada quand on regarde ce que certaines provinces comme le Québec ou encore le Nouveau-Brunswick, l'Ontario sont en train de faire sur une base provinciale. Mais réjouissons-nous, chaque petit pas est un pas important. Tesla lançait la semaine dernière sa toute nouvelle Tesla 3. Les caractéristiques et les prix sont maintenant connus. Donc, que ce soit de son autonomie qui va aller de 350 à 500 km selon la version, les couleurs qui sont proposées et le prix des options comme l'autopilote et sa version améliorée. Les caractéristiques que nous connaissons actuellement de la Tesla 3 dans la version standard, 35 000 $ américains, avec la batterie standard, une capacité en kWh encore inconnue, mais avec une autonomie annoncée de 350 km, une vitesse de recharge sur les superchargeurs de 210 km récupérés en 30 minutes et sur un chargeur à domicile de 240 volts, 32 ampères de 50 km par heure. La livraison devrait commencer à l'automne 2017, mais attention, pour le Québec, même ceux qui ont commandé très tôt, on parle de tard en 2018 pour les premières livraisons. La performance sera de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes, donc à peine un peu plus pour le 0 à 100 km/h et la vitesse maximale de 210 km/h. L'intérieur comportera un écran de 15 pouces avec une résolution qui semble être très, très, très performante, une climatisation bi-zone, une console centrale avec deux ports USB, Wi-Fi, connexion LTE, entrée main libre. Il y aurait une clé au format d'une carte et une ouverture possible via le smartphone, la reconnaissance vocale, la caméra de recul, le rétroviseur réglable électriquement, les sièges rabattables à l'arrière en mode de 60%-40%. En termes de technologie de sécurité, des phares full LED, 8 caméras radar à l'avant et 12 capteurs ultrasons autour du véhicule, 6 airbags frontaux et 2 latéraux, contrôle électronique de la stabilité et de la traction. Pour ce qui est de la garantie, on parle de 4 ans, 80 000 km et la batterie 8 ans, 130 000 km, 195 000 km pour la batterie longue autonomie. En option, donc l'option batterie longue autonomie, on parle de 500 km EPA, ça coûte 9000 $ les amis. Vitesse de recharge sur un superchargeur de 275 km par 30 minutes de recharge et sur un chargeur à domicile, on parle de 60 km par heure de recharge. Performance de la version longue autonomie, le 0 60 000 à l'heure en 5,1 secondes, le début des livraisons est pour juillet 2017 aux États-Unis. Les couleurs sont le Silver Black qui est une couleur standard, Midnight Silver Metallic pour 1000 $ de plus, Deep Blue Metallic 1000 $ de plus, Silver Metallic 1000 $ de plus, Pearl White Multicoat pour 1000 $ de plus et Red Multicoat pour 1000 $ de plus aussi. Les jantes viennent en 18 pouces design aéro pour les jantes standards ou 19 pouces design sport pour 1500 $ supplémentaires. Le pack premium à 5000 $ qui est un intérieur amélioré avec des fonctions supplémentaires et des matériaux premium, un toit en verre et des sièges chauffants. L'autopilote est amélioré, proche de la version qu'on a sur la modèle S et X et coûtera 5000 $, une capacité de conduite entièrement autonome qui fonctionne par l'activation là, sous réserve des évolutions réglementaires et on va voir ce qui va être permis de faire. Le conducteur pourra lâcher entre autres la main du volant et détourner le regard de la route pour 3000 beaux $. Et les dimensions et poids du véhicule, 4693 mm largeur, 1849 mm, 1932 avec les rétroviseurs pour, et une hauteur de 1422 mm. Un empattement d'environ 2875 mm. Nombre de sièges, conducteurs et passagers inclus 5. On parle d'un coffre, l'espace dans le coffre de 425 litres. Le poids vide pour la modèle 3 standard, 1600 kg. Pour la modèle 3 longue autonomie, 1730 kg. La carrosserie est composée d'aluminium et d'acier et le coefficient aérodynamique est de 0,23. La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Alors, voici que je suis de retour avec une chronique que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas faite, Véhicules électriques 101. J'ai décidé de revisiter, de refaire un peu la formule de cette chronique-là. On m'a écrit, on m'a soufflé à l'oreille lors de rencontres que c'était apprécié, donc qu'on prenne un sujet et qu'on l'explique simplement. Ceux qui le savent pas, ben je vous le dis là entre les branches, j'étais un ancien prof, hein, j'enseignais l'électronique au collégial, donc j'étais habitué de parler de trucs qui touchent l'électricité, l'électronique, et puis de le démystifier un peu. Puis je me suis dit, comment faire pour être capable de l'expliquer simplement? Je vais faire comme si je l'expliquais à mes enfants, en fait. Puis, ben, étant donné qu'on prend toujours la matière première qu'on a sous la main, j'ai des enfants à la maison. Alors, j'ai demandé à mon fils Émile, 10 ans, de me donner un petit coup de main en me posant des questions. Cette semaine, c'est lui qui va me poser une question. Si jamais vous avez des enfants à la maison qui veulent nous en poser, hein, vous les enregistrez avec votre téléphone, vous m'envoyez la question, le fichier sonore de la question, puis je passe ça dans le podcast et je réponds à la question, pas de problème. Alors, cette semaine, on va y aller avec Émile. Ça va bien, Émile?
Oui.
T'es sûr?
Oui.
Tu vas avoir des bonnes questions pour nous encore aujourd'hui?
Oui.
Qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-là?
Ben, je suis à l'école, là.
Ça te garde occupé?
Oui.
T'as-tu le temps de penser à une petite question pour moi?
Je pense que oui.
Vas-y, je t'écoute.
J'ai entendu parler de voitures hybrides branchables. Nous, notre voiture est électrique puis elle est branchable. Mais c'est quoi la différence entre une voiture hybride branchable et entre une voiture électrique branchable?
Hey, c'est une bonne question, Émile. Je vais essayer d'y répondre le mieux que je peux. Si jamais c'est pas clair, tu me le dis, OK?
OK.
En fait, vois-tu, les voitures allées jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était toutes des voitures à essence. Donc, ce qui fait avancer les roues, ce qui fait avancer la voiture, c'est un moteur à essence. Jusque-là, tu me suis?
Oui.
Bon. Une voiture comme la nôtre, c'est une voiture tout électrique. Donc, on enlève le moteur à essence, on le remplace par un moteur électrique. Donc, au lieu d'avoir de l'essence qui fait tourner un moteur à essence qui fait avancer la voiture, on a une batterie électrique qui fait tourner un moteur électrique qui fait avancer la voiture. Jusque-là, pas de problème?
Non.
Bon, notre batterie sur notre voiture tout électrique, si on veut la charger, bien, on doit prendre la voiture puis la brancher sur une source d'électricité qui va recharger la batterie pour qu'on soit capable de rouler après.
Oui, ça, c'est sûr.
Ça, c'est une voiture tout électrique, comme la nôtre. C'est ce qu'on appelle une voiture 100% électrique. Maintenant, il existe une voiture qui est comme mi-chemin entre une voiture à essence puis une voiture électrique. C'est ce qu'on appelle une voiture hybride. Hein? Okay. Hybride, ça veut dire à moitié des deux. Hein? Okay. Fait qu'une voiture hybride normale, c'est une voiture qui a deux moteurs dedans. Un moteur électrique, puis un moteur à essence. Okay. Donc, généralement, la voiture va fonctionner avec l'un des deux ou les deux en même temps. C'est-à-dire le moteur à essence va parfois venir aider. C'est-à-dire le moteur électrique va venir aider le moteur à essence pour y donner un peu plus d'énergie dans certaines circonstances. Souvent, par exemple, à basse vitesse, bien, notre voiture va rouler avec le moteur électrique. Puis dès qu'on va se mettre à aller plus vite puis faire de l'autoroute, par exemple, bien, c'est le moteur à essence qui embarque. Puis pendant que le moteur à essence roule, le moteur à essence en profite pour recharger les batteries du moteur électrique, ce qui fait qu'une voiture hybride normale, tu n'as jamais besoin de la brancher, la batterie se recharge par le moteur à essence quand le moteur à essence roule. Tu comprends? Okay. Fait que tu as les deux moteurs. Donc, les roues de la voiture roulent avec les deux moteurs. Une voiture hybride branchable, c'est une voiture hybride sur laquelle on a mis des batteries plus grosses, qui va faire en sorte que la voiture hybride va être capable de faire beaucoup plus de routes juste électriques sans utiliser le moteur à essence. Alors là, puisque ce n'est pas suffisant pour recharger le moteur électrique, la batterie du moteur électrique en roulant à essence, on branche aussi cette voiture hybride-là sur un chargeur pour recharger les batteries. Donc, grosso modo, c'est que tu démarres avec ta voiture, tu fais un grand bout électrique. À un moment donné, ta voiture, elle devient à essence. Donc, c'est le moteur à essence qui embarque. Puis, à la fin de ta journée, quand tu arrives à la maison, tu branches ta voiture puis tu recharges les batteries. Donc, tu n'utilises pas le moteur électrique pour charger la batterie, tu utilises plutôt un chargeur pour recharger la batterie. Donc, tu n'as pas besoin de prendre l'essence du moteur à essence pour, en plus de faire avancer l'auto, faire recharger la batterie. Tu comprends?
Oui.
Puis, il y a aussi une sorte de voiture électrique qui a une génératrice à essence, c'est ce qu'on appelle les voitures électriques avec prolongateur d'autonomie, comme la Chevrolet Volt ou la BMW i3 avec le module Rex. C'est des voitures qui sont des voitures électriques, donc la voiture roule toujours à l'électricité, mais il y a une petite génératrice à essence dans la voiture. Donc, quand nos batteries s'en viennent trop faibles, la petite génératrice à essence démarre, puis avec l'essence, va recharger notre batterie pour que notre véhicule continue à rouler électrique. Donc, la voiture va toujours avancer l'électricité, mais parfois, l'électricité étant trop basse dans la batterie, puis on ne peut pas la charger parce qu'on est en route, c'est une génératrice qui recharge nos batteries.
Okay.
Tu comprends la différence? Fait que dans le fond, si je te fais un, si je te résume, là, tu as une voiture toute à essence.
Ouais.
Tu as une voiture hybride qui est un mélange de voiture électrique et de voiture à essence, mais que tu ne peux pas brancher, c'est la batterie électrique dans le véhicule va se recharger par le moteur à essence. Quand la voiture tombe à essence, en même temps que le moteur à essence fait avancer le véhicule, il va aussi recharger les batteries. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une voiture hybride. Il y a comme deux moteurs, puis tout dépendant des circonstances, ça fonctionne avec un ou l'autre ou les deux. Il y a des hybrides branchables, qui est une voiture hybride, encore une fois, mais dont la batterie est un peu plus grande. Il y a plus d'autonomie électrique. Puis pour toutes ces raisons-là, on ne la recharge pas en roulant, on la recharge plutôt en la branchant sur une prise électrique. Donc, on a l'avantage de rouler par moment électrique, mais aussi d'avoir toute l'autonomie d'une voiture à essence parce qu'il y a aussi un moteur à essence qui fait avancer la voiture. Puis, il y a la voiture 100% électrique qui, elle, a une grosse batterie puis pas du tout de moteur à essence. Et elle fonctionne juste à l'électricité. Il y a juste un moteur électrique, une batterie, puis on charge à la maison. Puis, dans certains cas, il y a des voitures électriques avec prolongateur d'autonomie.
Ouais.
Là, c'est une voiture 100% électrique, mais dans laquelle on rajoute une petite génératrice à essence pour être capable de faire des distances plus grandes que les distances parcourables avec notre batterie qu'on a dans le véhicule.
OK.
Est-ce que c'est plus clair?
Oui, pas mal plus que ce que je savais.
Bon, si quelqu'un te pose des questions, tu vas savoir quoi répondre?
Oui, mais ça m'étonnerait que quelqu'un pose cette
question. Ah, tu pourrais t'en faire poser beaucoup plus vite que tu penses. Ça s'en vient populaire comme question.
Ouais.
Hein? Donc, si vous avez à la maison des enfants qui ont des questions à poser, gênez-vous surtout pas. Vous prenez votre téléphone cellulaire avec la petite fonction dictaphone, vous enregistrez la question, vous m'envoyez ça par courriel à martin@aveq.ca. Ça va me faire plaisir de faire jouer la question dans la balado-diffusion puis d'y répondre au mieux de mes connaissances. Sinon, il y a mon ami Émile ici qui a toujours des questions, n'est-ce pas, Émile?
Ouais.
Alors là, je sais pas, on se revoit la semaine prochaine pour la prochaine chronique Véhicule électrique 101.
JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 $ sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie.
Alors, je suis présentement en compagnie de M. Daniel Sirard et François Viau pour parler un petit peu avec moi de l'expérience du week-end dernier où on est allé au E-Prix voir la course de Formule E. Puis ce qui est de le fun, c'est que dans mes deux invités, j'ai deux profils complètement inversés. J'en ai un qui est un maniaque de voiture, de course de voiture, puis pas nécessairement de voiture électrique. L'autre, c'est exactement le contraire. C'est un maniaque de voiture électrique, pas particulièrement de course. Fait que je pense qu'on va être capable de donner l'heure juste pour tous les amateurs. Ben, tout d'abord, bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va bien?
Très bien, merci. Super, Martin.
Good. Ben, écoutez, on va parler un petit peu de l'expérience qu'on a vécue en fin de semaine à Montréal sur le site du EPRI en plein centre-ville. On va commencer tout d'abord par parler un peu de qu'est-ce qui nous a amené, quand je dis nous, c'est parce que j'étais là moi aussi, là, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au EPRI puis à aller jusqu'à vous acheter des billets pour aller sur le site. Donc, on va commencer par Daniel. Daniel, toi, ça t'est venu d'où cette idée-là?
J'entends parler de la Formule 1 depuis le début. Je l'écoutais à l'occasion. Depuis que le maire Coderre en parle, je m'ai beaucoup plus intéressé à la Formule 1, en fait. C'est là que vraiment l'intérêt a commencé beaucoup plus. Et puis, comme je suis un amateur de course, ben moi, c'est des voitures, c'est une piste de course, ça course, ça m'intéresse.
C'est pas compliqué, hein?
C'est pas compliqué. C'est ça. C'est une voiture, ça avance. Il faut qu'il arrive premier. Je trouve ça génial. Puis en plus, les voitures, moi, je trouve que les voitures ont un super de beau look en plus. Ça aide tout le temps. Puis à ma grande surprise, mais pas à ma grande surprise parce que j'avais vu un peu ce qui se passait, mais j'ai quand même été surpris. Le niveau de performance est vraiment là. Fait que c'est pas. J'ai pas été déçu.
Excellent. Puis même si c'est un amateur de. Normalement, j'imagine que c'est des courses de trucs à gaz là, que tu écoutes normalement. Toi, que ce soit à gaz ou électrique, ça n'a pas beaucoup d'importance pour toi?
Non, pas du tout.
C'est excellent. François, c'est un peu différent. Toi, tu es plus un amateur de véhicules électriques qu'un amateur de course. Qu'est-ce qui t'amène à une course?
Écoute, c'est sûr que j'ai toujours aimé un peu les performances de voitures, mais j'ai jamais suivi de course ni à la télévision comme telle ou encore même sur un circuit. Mais j'ai toujours, depuis le début, été amateur de véhicules électriques. Et quand j'ai entendu parler que le maire Coderre amenait la Formule 1 à Montréal, ça fait 2-3 ans qu'on en parle. J'ai fait comme waouh, ça va être incroyable si ça arrive. Et puis quand c'est arrivé, j'ai dit c'est sûr que faut qu'on aille voir ça, faut que j'aille voir puis entendre qu'est-ce que ça va donner, parce que même si on l'a pas entendu dans des courses ordinaires de voitures de Formule 1, je sais que c'est très fort, les gens se mettent des bouchons puis tout ça, fait que j'avais hâte de voir qu'est-ce que ça donnerait. Et puis, niveau de performance, puis que ça soit dans la ville, tu sais, on sait que les gens ont beaucoup chialé, si on peut dire, pour le prix qui était dans la ville, mais c'était quelque chose à voir et je suis bien content d'y avoir été.
Bien, parlons-en justement, François, de la course en plein centre-ville, parce que c'est un élément que je voulais aborder avec vous autres. Peut-être un peu plus Daniel qui a déjà assisté à des courses puis tout ça sur des pistes officielles. Là, on est dans une course sur circuit urbain, donc on doit aménager les rues du centre-ville pour accueillir la course. Il y a effectivement beaucoup de sucre qui a été cassé sur l'administration puis l'organisation. Je veux pas qu'on entre nécessairement dans la gestion des communications puis comment le tout a été géré. Je veux plutôt qu'on parle du résultat. Quand vous êtes présenté sur le site pour assister au EPRI, comment vous avez trouvé l'infrastructure, l'organisation, l'accès au site, que ce soit pour s'y rendre, pour entrer sur le site, pour se promener? Comment vous avez trouvé le setup final, là, au-delà de ce qui s'est dit puis des agréments que ça peut causer aux gens qui vivent proches? Pour un spectateur qui se présente sur le site, comment était l'expérience? On commence avec Daniel.
Pour avoir été à l'île Sainte-Hélène voir la Formule 1 à plusieurs reprises, je peux te dire, Martin, que j'aurais pas retourné cette année avec mon père que tu as vu, il est quand même, c'est plus une jeunesse, là. Je l'aurais pas ramené à Formule 1 parce que la marche est trop longue, l'accessibilité quand même assez compliquée, moi, de dire. Tu peux marcher des fois des 1 km quasiment jusqu'à, si tu es à l'autre bout du circuit, tu peux marcher quasiment 3 km pour te rendre à ton siège. Ce que j'ai bien aimé là, c'est le métro. Le métro était gratuit journée-là, ce qui était génial. Donc, le trafic, moi, je pars de Laval, fait que ça a été génial. On s'est rendu sur le de mon papa, fait qu'on a même été capable d'avoir une petite voiturette électrique pour se rendre. Et puis, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis, pour avoir vu d'autres sites, je te dirais, je parlais depuis une bonne heure avec François du Grand Prix de Trois-Rivières. Et je pense que c'est le plus bel événement de course qu'on a au Québec, au-delà même du Grand Prix, en tout cas pour l'amateur de course. Puis ça m'a fait penser un peu plus à ça. J'ai okay. Trouvé un peu plus ça que le Grand Prix, ce qui pour moi est un plus en passant.
Okay. Puis toi, François, comment tu as trouvé ça, le site?
C'était super bien fait. En fait, j'ai été vraiment impressionné dès le départ. On est arrivé, puis les on a parlé des murets, mais c'était vraiment impressionnant. C'était bien fait, c'était bien organisé. C'est sûr qu'il y avait quelques petites lacunes que d'ailleurs j'ai vu que tu avais soulevé là, dans l'article que tu as posté sur la VEC. Par exemple, pour bon, l'accessibilité à Gradin, des fois, c'était quand même assez loin en rapport avec le village, qui était toutes les attractions à voir, toutes ceux qui exposaient, dans le fond, qui étaient là. Et puis, je te dirais que des fois, les indications n'étaient pas toujours évidentes, mais pour le reste, c'était vraiment super organisation. Comme j'en parlais avec Daniel, justement, un petit peu avant le podcast, que, tu sais, la nourriture, l'eau, tout ce qui était, dans le fond, rafraîchissement, c'était quand même assez abordable. C'était pas. On était loin du Centre Bell, je te dirais.
Oui, c'est ça. C'est des prix d'événements, mais des prix d'événements très. Très, je dirais, correct, là. C'était pas exagéré.
Ouais. Exactement. Fait que ça, c'était bien apprécié aussi. Évidemment, la température était de notre bord. C'était une merveilleuse fin de semaine. Mais au-delà de ça, je te dirais que non, il n'y a pas eu de désagrément ou quoi que ce soit. C'était un bel endroit où être cette journée-là. Puis passer la journée, ça a passé dans le temps de dire.
Ah, effectivement. Effectivement, ça allait très vite. Si on parle maintenant de l'événement, des courses comme telles, donc évidemment, là, il y a les pratiques qui sont le matin. Il y a deux pratiques. C'est suivi de la qualification. Il y a la Super Pole après, là, pour ceux qui se connaissent un peu, là, où les meilleurs coureurs leur refont des tours de piste, et puis ça permet là, de déterminer le tour le plus rapide, puis ça va donner trois points bonus au coureur le plus rapide, puis ça permet aussi en même temps, là, lors des qualifications, comme toute course, de se faire une idée de la grille de départ. Puis dans l'après-midi, ben on a la course en tant que telle. Si on parle du spectacle de la course, et là j'ai vraiment hâte d'entendre Daniel, parce que Daniel, il se connaît pas mal plus que moi et toi sur le sujet, François. Toi, t'es habitué de voir des courses de tous les styles. Comment tu as trouvé le spectacle pour un amateur de course? Parce qu'on entend toutes sortes de choses et on lit toutes sortes de choses sur le fait qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son, ça tue le spectacle, ça va pas vite. J'ai lu plein de choses. Toi, tu es un amateur de ça, tu en as vu de toutes sortes. Pour un amateur de course, qu'est-ce que ça avait l'air sur le site? Le spectacle valait-il le déplacement et le prix?
Oh oui, non, ça sans aucun doute, moi j'ai aucun problème. La course, j'aime beaucoup en fait la formule de qualification, je trouve ça en tout cas très intéressant. Je ne veux pas comparer avec rien d'autre, là, mais je trouve ça bien intéressant. La Super Pole, je trouve ça intéressant, même je trouve ça un concept où il y aura encore plus de voitures, où ce qu'ils mettent bon, à chaque qualif, là, quand ils sont 5, mais j'en mettrais peut-être même jusqu'à 6, 7, 8. Ça pourrait faire. En tout cas, déjà que ça fait un bon spectacle, je trouve que ça ferait vraiment un très bon spectacle au niveau de la qualif. Le fait d'avoir 3 points pour la pole, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ce qui fait que c'est un bon spectacle pendant la qualif. Il n'y a personne qui est là juste pour s'exposer, mais il y a 3 points à aller chercher. Fait qu'il y a une véritable bagarre pour aller chercher le 3 points. La course, comme je disais, les voitures sont un niveau de performance bien intéressant. Les pilotes, pour même connaître plusieurs des pilotes que dans la série. C'est pas des poireaux. Puis je tiens aussi à préciser quelque chose, c'est qu'il n'y a aucun pilote payant en Formule 1, qui n'est pas le cas en Formule 1. Okay? En Formule 1, les 90% des pilotes mènent de l'argent quand ils arrivent en Formule 1. En Formule 1, c'est pas ça le cas du tout, c'est le talent seulement. Ça, c'est bien intéressant parce qu'ils vont chercher des pilotes intéressants. Fait que le niveau, moi, tout le spectacle, j'ai adoré. Comme je parlais un petit peu avec François, puis je pense que déjà le maire en a parlé, je trouve qu'il y a un peu d'espace entre essai, qualif, course, et puis que ça aurait besoin d'être rempli un peu. À la manière de tous les autres types de séries de courses, je te dirais, que ce soit la Formule 1, que ce soit qu'on ait au Grand Prix de Trois-Rivières, ou même que j'écoute des courses de moto, il y a toujours ce qu'on appelle du monde qui sont là pour réchauffer la salle. Une espèce de série monotype électrique, naturellement. Et puis, en passant, j'ai aucun problème avec le fait que ça ne fait pas de bruit. Au contraire, j'aime ça, on entend les pneus. Et puis, ça m'en dit peut-être encore un peu plus sur ce que les voitures font. Fait que c'est peut-être juste une autre manière d'écouter ou de percevoir une course.
Tout à fait. Ben, je pense que ça prend un minimum d'ouverture d'esprit. Puis de toute façon, le fun du spectacle aussi, c'est de voir les prouesses et les talents des pilotes. Puis c'était indéniable. Moi, ça m'a surpris. Ben, surpris, en fait. Peut-être que je ne suis pas un amateur. J'ai pas l'expérience de suivre ça comme vous autres. Mais moi, de voir des véhicules rouler à cette vitesse-là avec 3, 4, 5 cm entre le devant de la voiture puis le derrière de la voiture qui est en avant, collé, collé, collé. allé. Écoute, c'était hallucinant. Je retenais mon souffle. J'avais toujours l'impression qu'il était pour se rentrer dedans, mais non, ça. Écoute, j'ai trouvé ça, moi, personnellement, bien excitant. Ça m'amène à compléter en vous posant la question suivante, messieurs, fort de l'expérience que vous avez vécue. Avez-vous l'intention d'y retourner? Commençons par François cette fois-là.
Oui, effectivement, c'est sûr qu'on a envie d'y retourner. En fait, je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain que les billets en pré-vente étaient disponibles pour la fin de semaine. On a tout de suite sauté sur l'occasion pour aller prendre les billets qui étaient dans le premier gradin, en fait, le gradin ou premium, où le premier virage qui a beaucoup d'action. Moi, ça m'a donné, je dirais que ça m'a donné vraiment la piqûre, là, complètement, là, pour la course de Formule E. De voir, puis comme d'entendre, comme Daniel disait, d'entendre les voitures, ce qu'ils font. Et puis, écoute, on les entendait se rentrer dedans parce que ça jouait du coude. Là. Je pense pas qu'on voit ça en Formule 1. En fait, je ne crois pas. À ce point-là, ça donne un spectacle qui est vraiment époustouflant. Là. C'est prenant. Puis en plus, que ça course dans les rues de la ville. Là. C'est quasiment... C'est dur à imaginer tant qu'on ne l'a pas vu.
Ouais, ouais, c'est hallucinant. Moi, c'est ce que je disais, c'est d'écouter la course. Puis en background, en arrière, on voyait la tour Radio-Canada, le temps qui lui reste encore. la brasserie Molson, le temps qui lui reste elle aussi encore parce qu'elle déménage elle aussi. On voyait le stade olympique, lui, j'imagine. Pas le stade, oui, le stade olympique, on le voyait, il va rester là, le pont Jacques-Cartier. Donc, c'était vraiment un décor urbain. Moi, ça me rappelait un peu le feeling quand on va voir un match de football au stade Percival Molson, là, puis que tu vois vraiment le centre-ville en arrière. C'est puis t'es dehors, ouais. C'est un feeling extraordinaire. Toi, Daniel, ça t'a-tu donné le goût d'y retourner ou c'était pas un one-shot deal, ton affaire, là?
Non, 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 pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vais y retourner l'année prochaine. D'ailleurs, tout comme François, mes billets sont réservés dans bonne estrade. On va être à bonne place pour 2 jours, en fait, l'année prochaine même. Fait que c'est sûr, j'y retourne. Pour moi, l'événement, ça satisfait amplement ce que je voulais voir. Et puis à mes besoins de maniaque de course. Je dirais même, en plus, pour voir ça un peu autrement, Monaco, ça se fait dans une ville. Hein. Montréal, ce qu'on a fait en fin de semaine à Montréal, moi, me rappelle aussi un peu ça. Ça me fait penser à Trois-Rivières, parce que Trois-Rivières, ça se passe en ville. Et puis, c'est un cachet vraiment spécial. Montréal, dans la ville, je pense qu'on lui donne le temps de grossir un peu. Je pense qu'il y a du monde qui vont louer leur balcon, voir René Lévesque à des prix assez intéressant d'ici quelques années.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y en a qui... Il y a un petit revenu d'appoint qui va rentrer, qui va faire avaler la pilule. Hein? Okay. Écoutez, moi, le feeling que ça m'a fait, c'est que je me suis surpris à avoir hâte au mois de décembre parce qu'on sait que ça recommence au mois de décembre là, ouais. Avec la première course qui a lieu en Asie. C'est-tu au Japon, si je ne me trompe pas? Faudrait que je regarde, là, mais je sais que la première est au mois de décembre. La première course est au mois de décembre. Puis je me suis mis un reminder dans mon calendrier d'aller voir, de pas manquer ça. Là. Je sais que des fois, les courses, c'est un peu partout dans le monde. Ça a des fuseaux horaires un peu différents. Mais contrairement à cette année, l'année prochaine, quand je vais arriver à la course à Montréal, je vais avoir suivi les courses précédentes. Je vais être au courant de qui va bien, qui va mal, les écuries top, les écuries qui tirent de la patte un peu. Donc, je vais être un peu plus connaisseur cette année. En toute humilité, je connaissais pas grand-chose, mais je m'intéressais un peu comme François parce que c'est des véhicules électriques puis ça me fascine, contrairement à toi qui s'intéressais à ça parce que t'as de la course. Mais l'année prochaine, je vais connaître ça un peu plus puis je pense que le spectacle va être encore plus excitant, qu'on va déjà avoir des partis pris, on va déjà avoir des pilotes favoris, on va déjà avoir des pilotes qu'on va peut-être aimer un peu moins parce qu'ils vont avoir fait 2-3 coups de cochon les courses d'avant. Ça va avoir une autre couleur, je pense. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que l'année prochaine, là, on va arriver là armé, comme on dit.
Ça ressemble pas mal à ça, Martin.
Écoutez, messieurs, vous avez été super gentils de nous donner un peu de votre temps. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci, François.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup, Daniel.
Ben, ça me fait plaisir, Martin.
À la prochaine.
Bonjour à tous. Cette semaine, on clôt la discussion concernant une question fondamentale. À quel point les VE peuvent être qualifiés d'écologiques? On a déjà dit que ce n'est pas la production des batteries qui font que les VE peuvent difficilement être qualifiées d'écologiques. En fait, lorsqu'elles sont plus assez efficaces pour faire avancer une auto, Les batteries peuvent être recyclées, peuvent être réutilisées, par exemple pour stocker l'énergie de panneaux solaires résidentiels. Pour ce qui est de l'extraction des ressources, même si c'est encore très sale d'acquérir les ressources nécessaires pour faire les batteries, les technologies sont de plus en plus performantes et la recherche dans ce domaine ne fait que commencer. Bref, ce qui est aujourd'hui très polluant le sera beaucoup moins demain, comme pour toutes les technologies émergentes. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que oui, les batteries sont polluantes, mais c'est loin d'être la catastrophe que certains annoncent. Et ensuite, jusqu'à un certain point, cette pollution est inévitable. On ne peut pas exiger d'une technologie émergente qu'elle soit sans faille. Ça prend une période de recherche, de rodage. Si on n'accepte pas ce principe, on condamne l'innovation. Le meilleur exemple pour illustrer ce principe, c'est l'apparition des bateaux à vapeur qui ont remplacé les bateaux à voile au 19e siècle. Au départ, les bateaux à voile étaient beaucoup plus performants que les bateaux à vapeur pour exécuter beaucoup de tâches. Mais à force d'investir, d'améliorer la technologie, les bateaux à vapeur ont supplanté les bateaux à voile dans beaucoup de domaines. Dans tous les domaines. C'est la même chose pour les VE. Et on est déjà rendu au point où les véhicules électriques sont moins polluants que les voitures à essence. En effet, selon Stephen Guilbeault, même lorsqu'on prend en compte tout le cycle de vie d'un VE et tout le cycle de vie d'une voiture à essence, et ce, même dans le cas d'une province qui fait son énergie à partir du charbon, qui est très polluant, on observe une diminution de la pollution pour le VE de près de 50 %. Ce pourcentage est donc encore plus grand dans le cas de provinces ou d'États qui fonctionnent avec des sources d'énergie renouvelables, comme le Québec. La raison, c'est qu'un moteur électrique est 3 fois plus performant qu'un véhicule à essence. En fait, un moteur à combustion perd les 2/3 de son énergie en chaleur. Ça veut dire qu'il y a environ 30 % de l'énergie produite par le pétrole dans un moteur thermique qui sert à faire avancer le véhicule. Le reste, ça s'évapore en chaleur. Et ça, c'est les moteurs les plus efficaces. D'habitude, on parle plutôt d'une efficacité qui tourne autour de 25 %. Dans le cas d'un VE, l'efficacité du moteur est beaucoup plus grande. L'énergie contenue dans les batteries sert à faire avancer le véhicule dans une proportion de 80 % et plus. Donc, on avance 3 fois plus dans un véhicule électrique pour la même quantité d'énergie que dans un véhicule avançant au pétrole. On peut donc conclure définitivement que les VE sont plus écologiques que les voitures à essence. Mais les véhicules électriques ont d'autres avantages que leur plus basse empreinte écologique. On a déjà parlé de la qualité de l'air. Les émissions des voitures à essence contribuent à la pollution atmosphérique qui fait plus de 5,5 millions de morts par année à travers le monde. Or, les VE aident beaucoup à cet égard parce qu'ils n'émettent pas de particules fines et de polluants lorsqu'ils roulent. Aussi, le Québec n'est pas un producteur de pétrole. Donc, tout le pétrole qui sert à faire avancer nos autos, on l'achète à l'étranger. C'est donc des sous qu'on envoie à l'extérieur de nos frontières plutôt que de l'investir chez nous. Or, en misant sur les VE, on se sert de nos ressources, l'hydroélectricité. On encourage la recherche et l'innovation dans un domaine dans lequel on a des expertises, la conservation de l'énergie, l'électricité, et on crée des emplois chez nous. Bref, pour le Québec, les VE, c'est un no-brainer. Donc, est-ce qu'une auto électrique, c'est écologique? Oui, mais on a dit la semaine passée que ce n'est pas autant que de ne pas avoir d'auto. Mais il y a quand même une place pour les véhicules électriques dans la transition énergétique. En attendant qu'on transforme nos transports en commun et nos moyens de nous déplacer pour qu'ils soient une meilleure alternative au modèle de l'auto solo, l'auto électrique doit faire partie du cocktail de mesures qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Il présente trop d'avantages pour le Québec et d'avantages collatéraux en général pour qu'on les boude. Ils peuvent servir à la phase transitoire qui va nous amener vers des modes de déplacement plus loin de l'auto solo. Donc non, les VE ne sont pas parfaits, mais ils contribuent certainement positivement à la transition énergétique. Merci d'avoir été là. Bonne semaine!
Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. le 5 août, le week-end des anciennes à Rimouski, kiosque d'information et essais routiers. Le lendemain, le 6 août, c'est la 47e exposition de Lobinière de 10h30 à 16h au 1070 avenue Bergeron-Saint-Agapit, kiosque d'information et essais routiers. Les 12 et 13 août 2017 de 13h à 16h, c'est l'auto-show de Gatineau au parc des 7 de Elmer, des kiosques d'information et une exposition de voitures électriques. Le 12 août, lac en fête de 13h à 16h au lac Mégantic pendant la traversée du lac Mégantic, donc kiosque d'information essais routiers à partir de la BRCC de Mégantic. Le lendemain, le 13 août 2017, de 10h à 16h, c'est Destination Zéro Émission à la Place des Citoyens, 999 Boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle, kiosque d'information et essais routiers. Le 17 août, le jeudi 17 août, c'est les Jeudis branchés qui sont de retour de 17h à 21h au marché de la gare de Sherbrooke, conférences, informations et table ronde. Et je ne m'en voudrais de ne pas vous parler de notre événement Géroule Vert le 19 août de 10h à 16h à la TAU Montréal. C'est le plus gros événement de l'année. Un événement unique 100% électrique, des essais routiers, des Olympiades en voiture électrique, conférences de personnalités publiques sur l'électromobilité, kiosques interactifs, spectacles de cirque, plusieurs surprises. Donc, on a également la présence de notre porte-parole pour la campagne Géroule Vert, Anaïs Favron. Et on va essayer à cette occasion-là de battre le record Guinness du plus grand nombre de véhicules électriques et hybrides branchables au monde. Donc, vous pouvez vous inscrire là, sur notre site web et participer à ce défi unique. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement le petit Émile Archambault, Daniel Sirard et François Viau, ainsi que Maxime Séguin-Durand pour sa chronique. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec aimerait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, écrivez plutôt à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site web au www.aveq.ca. Et je vous rappelle que sur notre site, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.